Nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu reprendre le culte public, donc avec votre assistance, juste avant la Pentecôte. Bon, déjà dimanche dernier, c'était super, mais encore plus ce dimanche, puisqu'avec cette grande fête de la Pentecôte qui conclut le temps de Pâques, nous savons que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de rassembler un peuple nouveau, un peuple dont les valeurs ne sont pas des valeurs de type idéologique, mais c'est un lien spirituel qui nous unit, le lien de la foi, le lien de l'espérance et de la charité, le lien de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ, au Père et au Saint-Esprit. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la deuxième personne de la Trinité est venue vers nous, a pris un corps et est né, donc la fête de Noël, est mort et ressuscité, la fête de Tridéum Pascal et la fête de Pâques que nous avons vécue de façon assez triste cette année, il faut bien le dire. Eh bien, le Verbe, donc la deuxième personne à la Trinité est venue pour nous sauver en prenant un corps de chair. Eh bien, ensuite, ce n'est pas tout. La troisième personne de la Trinité vient aussi vers nous. Et le Seigneur le dit, Jésus le dit clairement. Il dit « Bon que je m'en aille pour vous envoyer l'Esprit Saint ». C'est une personne de la Trinité, au même titre que Jésus est une personne de la Trinité et que le Père est une personne de la Trinité. Cette mystérieuse révélation que aucun homme n'aurait pu inventer, de découvrir que Dieu est trine, est une trinité d'amour. Et que donc, ces trois personnes de la Trinité, eh bien, voilà que la troisième vient vers nous. Aujourd'hui, nous recevons, nous actualisons le mystère de ce don, de cette troisième personne de la Trinité que Jésus nous a promis, qui descend sur les apôtres et qui vient agir. À la différence de la deuxième personne de la Trinité, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas le mystère de l'incarnation. Par contre, il permet au Fils du Père, la deuxième personne de la Trinité, de s'incarner en la Vierge Marie. Et puis ensuite, dans l'Église, il permet à Jésus d'être présent. Il permet que l'Eucharistie soit efficace, que les sacrements soient efficaces, que le pain et le vin, quand ils sont consacrés, deviennent réellement corps et sang du Christ. C'est le Saint-Esprit qui le réalise. Le Saint-Esprit ne s'incarne pas, il ne se voit pas, mais il est très efficace, très agissant. Nous ne pouvons pas être chrétiens sans lui. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Nous ne pouvons pas croire en l'efficacité des sacrements sans lui. Moi, j'aime à dire parfois que nous n'avons rien à craindre pour l'Église. Il y a des gens qui sont un peu inquiets pour l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va mal tourner. L'Église va dévier, va sortir. Mais non! Sinon, c'est signe que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais je vous assure, le Saint-Esprit existe. Je l'ai rencontré. Voilà. Nous l'avons rencontré. Le Saint-Esprit, de la même manière que le Saint-Esprit est efficace quand nous recevons les sacrements, quand Dieu nous pardonne, et même au dernier jour de notre vie, le Saint-Esprit peut agir dans notre vie pour nous aider à aller vers le ciel, à nous ouvrir le ciel malgré notre vie infidèle. De la même manière, le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, protège l'Église, il n'y a rien à craindre. Il protège de façon particulière le successeur de Pierre, depuis toujours. Et il n'y a aucune raison que ça change. Sinon, ça veut dire qu'on passe à une autre religion. On change de religion, c'est plus le christianisme. Et donc le Saint-Esprit est une vraie personne. Et ce qui est beau de prendre conscience que cette personne est donnée, est là avec nous tout le temps, rend présent le Christ, rend présent la deuxième personne de la Trinité, et puis nous donne de pouvoir dire au Père, Abba, Père, Papa, en vérité. C'est pour cela que tant qu'on n'est pas baptisé, normalement on peut dire notre Père, mais on ne peut pas le dire en vérité. Parce que le fait de le dire en vérité, c'est par le don du Saint-Esprit qui nous est fait dans le baptême et la confirmation. Donc il faut attendre, et puis l'Eucharistie aussi. Donc il faut attendre de le recevoir. Le Saint-Esprit agit. Il agit au-delà des frontières de l'Église aussi. C'est ce que le Concile Vatican II va rappeler de façon subtile et un peu complexe à comprendre. il agit comme il peut, dès qu'il peut agir, il agit. Mais ce qui est certain, c'est que nous, chrétiens, qui avons accueilli la révélation divine, qui avons accueilli Jésus dans nos vies, qui avons accueilli le salut de Jésus, qui avons accueilli Dieu qui nous parle, le Père qui nous parle, qui nous dit qu'il nous aime, qui avons accueilli le Saint-Esprit, il est certain que nous avons une mission particulière dans le monde de vivre dans le Saint-Esprit, sous la motion du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec cette personne de la Trinité qui nous fait communier à la Trinité tout entière. Et donc notre travail à nous chrétiens, c'est d'accueillir le Saint-Esprit tout le temps. Certains saints diront que c'est l'acquisition du Saint-Esprit, ça c'est le travail de la sainteté. Le Saint-Esprit, comme il dit la très belle séquence que vous avez entendue juste avant l'Évangile et que je vous invite à relire, c'est une très belle prière, une très belle méditation, on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ? Il redresse ce qui est courbé, il assouplit ce qui est raide. Enfin, il corrige tous nos problèmes. Merveilleux, mais pas de façon humaine, pas telle que nous on voudrait. C'est-à-dire que nous on voudrait ne pas avoir de problème. Non, le mystère de la croix restera présent dans la vie. Mais le Saint-Esprit est là pour nous assister, pour nous perfectionner, pour nous sanctifier, pour nous diviniser même, on dit certains spirituels. Aussi, vivre avec le Saint-Esprit, même si on n'est pas obligé de parler toujours du Saint-Esprit, mais d'avoir conscience que cette personne se donne comme le Verbe se donne en prenant chair et dans l'Eucharistie, de la même manière, le Saint-Esprit se donne à nous, veut se donner à nous. Et donc, c'est vraiment d'entrer dans cette vie spirituelle, telle que, étymologiquement, ça veut dire une vie selon l'esprit, spirituelle, qui ne nous empêche pas de vivre notre vie bien naturelle, mais qui perfectionne la nature. C'est l'effet de la grâce. La grâce perfectionne notre nature. Le Saint-Esprit est quelqu'un, je le dis parfois, est quelqu'un d'assez timide, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcer la porte de nos vies, hein. Celui qui n'en veut pas, il reste à la porte. Comme Jésus, comme le Père, la Trinité, comme ça. Il ne va pas forcer la porte de nos vies. Par contre, si on veut vivre de l'Esprit, eh bien, il va réaliser des merveilles en nous, malgré nous. Ce Saint-Esprit est aussi discret, et puis il a souci que nous ne rentrions pas dans un orgueil spirituel ou je ne sais quoi, et donc de nous garder dans une vraie humilité. Donc malgré nous, nous pouvons faire beaucoup de bien grâce à la vie dans l'esprit. Je voudrais insister aussi vraiment là-dessus, c'est que c'est vraiment une des distinctions c'est une des différences entre la foi chrétienne et les autres grandes religions. C'est que dans les autres grandes religions, alors il y a les religions de type naturel, où Dieu n'a pas parlé, mais où l'homme naturellement se tourne vers Dieu parce qu'il se dit c'est pas possible, c'est pas moi, je suis pas venu là tout seul, enfin, etc. Donc il y a cette religion naturelle qu'on retrouve un peu dans toutes les grandes religions, enfin dans toutes les religions du monde, hein. L'homme est naturellement religieux parce qu'il y a cette religion naturelle qu'il développe. Il y a les religions révélées ou dites révélées, hein. Donc c'est le judaïsme et puis aussi le judaïsme a un statut particulier, mais on peut aussi penser à l'islam, mais il y a aussi d'autres religions qui se prétendent révélées aussi. Eh bien, la différence du christianisme par rapport à toutes ces religions-là, aux autres religions, c'est que Dieu, on ne se contente pas d'honorer Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu. On ne se contente pas d'accueillir une révélation qui nous serait dictée, simplement, avec un certain nombre de préceptes ou un certain nombre d'éléments sur qui est Dieu et auquel il faudrait croire, adhérer et puis professer. Alors, de fait, ça fait partie aussi de notre foi, hein, de professer, de dire « oui, c'est vrai, j'accueille la révélation divine ». Mais on ne se contente pas de cela. Hein, dans les autres religions, en fait, on essaie de faire des choses pour Dieu, on essaie, Dieu est là-haut, nous sommes en bas, et puis on essaie d'agir en fonction de ce que la religion nous dit comme bien, selon ce que Dieu vraisemblablement pense. Nous, ce n'est pas ainsi. Nous, c'est très fort, parce qu'en fait, Dieu s'investit dans notre monde, dans notre vie. Nous entrons dans une relation réelle avec Dieu. Le Saint-Esprit nous permet cette relation avec lui. Notre vie chrétienne est une vie spirituelle, non pas dans le sens éthéré, dans le sens désincarné, mais c'est dans le sens d'une vie avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. D'où l'insistance. Parfois, on me dit que j'insiste beaucoup sur la question de la prière régulière. Mais si on est chrétien et qu'on ne prie pas, ça veut dire que le Saint-Esprit n'existe pas. Qu'on est religieux comme on est, je ne sais pas quoi, mais pas religieux chrétien. Si on prie, c'est parce que le Saint-Esprit existe, qu'on entre en relation avec Dieu réellement, concrètement, physiquement, et qu'on prend du temps pour lui comme on prend du temps pour des amis, ou pour son époux, son épouse. On prend du temps avec lui parce que c'est une personne qui veut rentrer en relation, qui veut dialoguer, cheminer, guider. Ainsi, dans notre vie chrétienne, il ne s'agit pas simplement d'éviter le mal, et c'est déjà bien. Il s'agit de faire le bien que Dieu veut, le bien que le Saint-Esprit nous inspire. Il y a parfois à choisir entre différents biens. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. De même, dans notre prière, nous pouvons être aussi guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous inviter à prier pour telle ou telle personne. Le Saint-Esprit peut nous demander d'intercéder pour telle guérison et l'obtenir. Oui, nous sommes une religion de relation. Relation avec Dieu qui va nous donner une autre relation avec nos frères chrétiens et avec toute l'humanité aussi. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire, évidemment, sur le Saint-Esprit, sur l'accueil du Saint-Esprit, mais déjà de bien retenir que notre religion est une religion où le Saint-Esprit se donne à nous, où nous sommes invités à rentrer en relation, à entrer en communion, en union avec le Seigneur, à mettre le Saint-Esprit dans le coup, dans toute notre vie. Il le fera pas sans notre accord. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, c'est la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous fêtons, normalement, on aurait dû fêter le 31 mai, la Visitation. Marie, juste après avoir reçu le Saint-Esprit de façon unique, et elle l'a accueilli de façon parfaite, hein, faut bien le dire, eh bien, et le Verbe s'est fait chair en elle à ce moment-là, eh bien ensuite, tout de suite, elle est partie pour servir sa cousine Élisabeth. Et donc, on voit le fruit du Saint-Esprit. Cet amour, cette charité qui déborde. Et Marie peut nous aider donc à accueillir le Saint-Esprit. Demain, selon la volonté du pape François, déjà pour la deuxième année, le lundi de Pentecôte, désormais nous faisons Marie, mère de l'Église. Parce qu'elle est dans l'Église, elle nous montre vraiment comment accueillir le Saint-Esprit, comment vivre en Église vraiment. Marie est vraiment une mère et elle nous aide à faire vivre l'Église, à bien nous positionner dans la vie de l'Église. Et non pas nous égarer dans certains débats stériles, au lieu de vivre notre chemin de sainteté avec le Saint-Esprit, et au lieu de servir Dieu, servir l'Église, servir nos frères. Au ciel, on verra tout le temps perdu pour plein d'autres choses, simplement parce qu'on n'a pas écouté ce que le Saint-Esprit nous demandait. Et je voudrais terminer simplement sur le fait que donc le Saint-Esprit, on n'a jamais fini de l'accueillir, puisque c'est une personne, hein, qu'on dialogue avec lui, on le fait rentrer dans notre vie de plus en plus. Je veux terminer simplement sur le fait que de faire remarquer qu'à chaque Eucharistie, lorsqu'on communie au corps du Seigneur, où il est vraiment présent, hein, je crois que nous le croyons, eh bien, c'est aussi une effusion du Saint-Esprit. C'est ce que les pères de l'Église disent. La communion eucharistique, c'est un feu. C'est une présence divine, mais c'est la présence aussi du Saint-Esprit qui descend sur nous. Et de prendre conscience qu'à chaque Eucharistie, nous vivons la Pentecôte. À chaque communion, nous vivons la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur nous. Il y a deux images du Saint-Esprit, hein, que nous disent l'Écriture sainte, le feu et le souffle. Hein, le souffle invisible, mais comme pour respirer, on voit bien, eh bien, on a besoin d'air, et pour avoir une vie spirituelle, on a besoin du Saint-Esprit. Et puis le feu qui embrase les cœurs, qui transforme les vies, qui font que d'un bois sec ou d'un bois vert, au final, il finit par y avoir une braise brûlante de charité qui embrase le monde, qui met le feu au monde. Et voilà, je voudrais terminer, parce que j'aurais déjà été long. Oui, en effet. Je veux terminer par une prière de Saint Éphrem, le chantre du Saint-Esprit. au 4e siècle, Saint Éphrem le Syrien, qui était diacre. Et je vous invite à vous unir à cette prière. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dont la venue est parole. Feu dont le silence est lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs, toi qui illumines les yeux de nos cœurs, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Amen.